Les cours du Collège de France, Luigi Rizzi, chaire linguistique générale.
Bonjour à toutes et à tous. Merci pour être ici dans un jour qui n'est pas tout à fait notre jour normal de cours. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, comme d'habitude, il y aura un séminaire immédiatement après le cours. Et c'est le professeur Wojtkowski de l'Université de Genève qui nous parlera en français. Et on continuera et on terminera demain à l'heure et date, jour de la semaine habituelle, avec mon cours et le séminaire du professeur Kierkia de l'Université de Harvard. Bien, donc revenons au thème que nous avons discuté dans les dernières semaines. Dans notre recherche et quête des éléments constitutifs du langage, ce qu'on a appelé métaphoriquement les atomes du langage, bien cette recherche nous a amené à regarder le lexique fonctionnel. Et nous avons mis en évidence plusieurs propriétés importantes de cette partie du lexique. D'un côté, il y a une division du travail entre le lexique fonctionnel et le lexique de contenu. En certains sens, le lexique fonctionnel crée des structures et le lexique de contenu introduit les éléments de sens. Vraiment, une caractérisation extrêmement grossière de la division du travail peut être exprimé comme ça. Nous avons ces squelettes structuraux constitués par le lexique fonctionnel qui sont très complexes. Ce sera le thème de la leçon d'aujourd'hui. Le degré de complexité est tel que cela vaut la peine de cartographier ces structures de manière détaillée. Donc, première chose, constitution d'entité structurale. Deuxième chose, le lexique fonctionnel déclenche les actions syntaxiques. Nous avons beaucoup parlé d'actions comme merge externe, donc l'opération d'assemblage, merge interne, le mouvement, les processus d'accord, les processus d'externalisation. Tout cela est déclenché en bonne mesure par des spécifications dans le lexique fonctionnel. Et troisième chose, le lexique fonctionnel est le locus principal de la variation paramétrique. Ça, c'est l'hypothèse ou la conjecture de Borer-Chomsky que nous avons discuté la semaine dernière. Donc, nous avons nous focalisé aujourd'hui sur le premier aspect, la construction de structures dont les éléments fonctionnels sont responsables. Ici, il y a quelque chose à dire sur la question de la complexité de la syntaxe et la simplicité des mécanismes. D'après ce que nous avons discuté et proposé, merge est l'opération fondamentale de création de structures et c'est une opération d'une simplicité extrême. On peut difficilement penser à quelque chose de plus simple d'une opération qui dit « prends deux éléments, mets-les ensemble, transformer un troisième élément » et cet élément peut être à son tour soumis au même processus. Donc, simplicité extrême des mécanismes. Néanmoins, les structures construites par un mécanisme aussi simple peuvent rapidement devenir des objets très complexes. Ceci en partie à cause de la récursivité, le fait que l'opération peut continuer à se réappliquer sur son propre résultat, et en partie à cause de la richesse des spécifications lexicales qui déterminent la manière de fonctionner de merge. Donc les projets cartographiques dont je vais un peu parler aujourd'hui essayent de rendre justice à cette complexité structurale en proposant une cartographie des structures. Donc nous voulons dessiner des cartes, toujours sous la forme d'arbres, structures arborescentes, qui manifestent la structure hiérarchique des différents éléments. Et on tombe très vite sur des configurations qui sont très riches et complexes. Alors, le fait qu'un mécanisme extrêmement simple peut engendrer des structures complexes n'est pas quelque chose de complètement nouveau. On voit un exemple très clair de cela, par exemple, dans l'étude des objets fractales ou des figures fractales. J'ai mis là dans cette diapo le livre fameux de Benoît Mandelbrot, le mathématicien franco-polonais qui a inventé le nom et qui a beaucoup travaillé à cette idée. Donc, pour les figures fractales, des règles génératrices extrêmement simples, extrêmement élémentaires, peuvent engendrer des figures d'une grande complexité, d'une grande beauté. Un exemple fameux est celui de la courbe de von Koch, où une règle extrêmement simple, comme celle qui est illustrée par les deux premiers éléments ici, donc une règle qui dit « prends un segment, divise-le en trois parties égales, et puis prends le segment du milieu et remplace-le par une pointe comme ça, donc en effet un triangle équilatéral où on élimine l'un des côtés. » Donc cette très simple opération qui peut se répéter, donc chaque fois que nous créons un segment, nous pouvons continuer à appliquer cette simple règle, peut rapidement engendrer des structures très complexes, par exemple aussi des figures fermées à partir d'un triangle. On peut engendrer quelque chose qui ressemble fortement à un flocon de neige et on peut continuer indéfiniment dans la spécification de la complexité de ces figures. Ces entités fractales ont bien sûr manifestations naturelles très importantes. Il y a beaucoup de végétaux qui en quelque sorte reproduisent des structures fractales comme ce fameux type de chou originaire de la région de Rome. Le flocon de neige est une figure de ce genre, etc. On peut étudier de manière détaillée les règles formelles qui engendrent ces types de structures. On peut faire essentiellement la même chose pour le langage en modifiant ce qu'il y a à modifier. Alors, on pourrait dire, mais qu'est-ce qu'on essaye de cartographier exactement? Étant donné que la syntaxe des langues naturelles est illimitée, comment peut-on cartographier un espace infini? L'idée d'une carte suggère qu'il y a des limites. On peut faire la carte d'un pays parce que sa surface est limitée. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans un domaine illimité? Ben, en effet, merge récursif peut engendrer un nombre limité de structures, mais il faut toujours garder à l'esprit, comme je l'ai souligné plusieurs fois, que merge ne s'applique pas dans le vide. Il assemble des éléments du lexique, des deux types de lexique, fonctionnel et de contenu, qui ont certaines exigences sélectives, certaines spécifications lexicales. Et ce sont ces spécifications lexicales qui déterminent la stabilité des structures qu'on obtient. Donc, nous avons d'une part les configurations atomiques de la syntaxe, qui sont les éléments du lexique, des deux types de lexique, et les arbres élémentaires qu'ils projettent. Et d'autre part, nous avons des agrégations stables d'atomes, des sortes de molécules complexes. Si on pense à la notion de construction grammaticale, qui nous vient de la tradition, de la grammaire descriptive traditionnelle, les constructions sont en effet des structures stables qui ont été identifiées, classées, analysées par la tradition grammaticale. Mais l'ensemble des structures stables va bien au-delà de cela, du simple inventaire des constructions grammaticales. Donc on essaye d'exprimer ces propriétés stables à travers les structures et cette structure moléculaire fait l'objet de l'analyse cartographique. Ici, il convient de souligner qu'il n'y a pas de contradiction, bien au contraire, entre la complexité qui est mise en évidence par des études cartographiques et la simplicité qui est soulignée par le minimalisme. Tout simplement, le minimalisme se focalise sur les mécanismes qui ont cette caractéristique d'être extraordinairement simples, et la cartographie se focalise sur les structures créées qui peuvent être très complexes. Mais comme beaucoup de domaines le montrent, il n'y a pas de contradiction entre ces deux choses. Voilà, donc comment cartographier les structures ? On peut partir de cette représentation de la structure d'une phrase qui remonte aux années 80, en gros, où nous avons plusieurs manifestations de cette sorte de cellule élémentaire, structure élémentaire, qui est la projection d'un certain type de tête. Ici, on m'a rappelé que j'avais oublié de définir les structures que j'utilisais, donc je vais le faire maintenant, un peu tardivement. C'est la notation anglo-saxonne où la lettre P désigne un syntagme, phrase, donc ça veut dire phrase, donc VP, ça veut dire verb phrase ou syntagme verbal. IP, c'est le inflectional phrase, donc le syntagme flexionnel, donc la structure de la phrase proprement dite. CP, c'est la projection du C qui est le complémentaire, donc c'est un syntagme complémentaire, de nouveau avec cette configuration qui est ce qu'on appelle la structure X-bar. Donc ça, c'est la configuration de la phrase. Il y a au départ au moins ces trois niveaux superposés l'un à l'autre. Et là aussi, avec une certaine division du travail, ils expriment des propriétés distinctes. Hein. Donc, le syntagme verbal, le VP, est spécialisé dans l'expression de la structure argumentale. Qui fait quoi à qui dans l'événement qu'on décrit, fondamentalement. Donc, il y aura un certain événement qui mettra en jeu un certain nombre de participants qui recevront des rôles thématiques. Et donc, tout cela est exprimé au niveau du VP, de la structure argumentale. La couche intermédiaire, la structure de la phrase haute, disons, de la structure de la phrase, exprime des propriétés comme le temps, l'aspect de la structure. Donc, par exemple, dans cette phrase, le fait que l'événement de rencontre qui est décrit par la phrase a eu lieu dans le passé. Donc, propriété temporelle, aspectuelle, et bien d'autres choses, comme le système K-accords, par exemple, est exprimé au niveau de cette couche. Et puis, la couche supérieure, le système du complémentaire, exprime des propriétés qu'on appelle de portée discours, donc des propriétés liées au discours, comme le type de structure, le type de phrase avec laquelle nous avons affaire. Il s'agit, par exemple, dans ce cas, d'une interrogative, et son caractère interrogatif est exprimé par quelque chose, le préfixe, cette sorte de préfixe « est-ce que » qui est exprimé au niveau de la structure du complémentaire. Donc nous avons ce type de configuration. Différentes couches structurales fonctionnent comme une sorte d'échiquier dans lequel on peut déplacer les éléments. Par exemple, la position du verbe peut changer. Dans certaines structures, le verbe restera dans le syntagme verbal, adjacent à l'objet direct, donc il a souvent rencontré Marie, par exemple. Dans d'autres structures, sur la base des propriétés morphosyntaxiques de la structure, il pourra se déplacer, par exemple, il pourra bouger à la flexion, comme c'est indiqué ici, et on obtiendra une structure avec un verbe fléchi, type « il rencontre souvent ». Marie, par exemple, où le verbe lexical se déplace à la flexion qui exprime certaines propriétés de temps, de mode et d'accord. Et puis ce mouvement pourra encore continuer, par exemple, on pourra former une interrogative qui impliquera la périphérie de la phrase, donc il y aura un mouvement ultérieur du verbe vers la périphérie de la phrase, on obtiendra « rencontrait-il souvent Marie » avec le mouvement du verbe fléchi encore à la gauche du pronom sujet. Donc ça, c'est un peu l'analyse classique de la structure de la phrase, telle qu'on la retrouve dans la littérature d'il y a quelques décennies. Mais à un moment donné, le linguiste français Jean-Yves Pollock avait fait l'observation très importante que dans ce genre de représentation, il n'y a pas suffisamment de positions pour caser pour bien décrire les différentes positions du verbe, parce que il suffit de considérer une phrase qui est suffisamment de complexité en termes de position adverbiale pour voir que le verbe lexical peut se trouver à plusieurs endroits, donc en adjacence avec l'objet direct, dans des structures comme ne pas complètement comprendre ses idées, donc sa position de base essentiellement, où elle peut se déplacer au-delà d'un adverbe bas. Il peut encore se déplacer au-delà d'un adverbe plus haut, comme le marqueur de négation, par exemple dans une phrase à verbe conjugué, il ne comprend pas complètement ses idées. Ou bien il peut encore se déplacer plus en haut, dans une question par exemple. Mais donc, on n'aura pas dans ce genre de représentation suffisamment de positions pour bien décrire toutes les positions que le verbe peut occuper. Donc il faut trouver une solution à ce problème. La solution proposée par Pollock était de scinder le nœud flexionnel dans des composantes plus fines. Donc comme on exprime dans la tête flexionnelle des propriétés d'accord et de temps, l'idée de Pollock a été de dire ben, peut-être accord et temps forment deux têtes séparées, ce qui donne plus de structure à la configuration phrasale, ce qui augmente les positions, ce qui nous permet donc d'avoir autant de positions verbales par rapport à ce qu'il faut pour décrire correctement la distribution du verbe par rapport aux adverbes. Puis Adriana Belletti a repris cette analyse et observé que l'ordre correct était que la spécification de l'accord avec le sujet devait être plus haute par rapport à la spécification du temps, ce qui est montré par des effets de miroir dans l'ordre des différents affixes. Hein, pensons à un verbe conjugué complexe comme accepteront, acceptions, etc. Il y a un élément qui correspond en gros au temps, et un élément qui correspond à l'accord, et l'élément qui correspond au temps est plus proche de la racine par rapport à l'élément qui correspond à l'accord. Donc ceci découle d'une analyse pollockienne qui distingue entre accord et temps, sauf que accord est dans une position plus haute que le temps, donc le verbe en se déplaçant s'associe d'abord avec l'affixe le plus bas, et puis l'ensemble se déplace encore, et de cette manière on forme des structures complexes, ou comme Mark Baker, que nous connaissons déjà bien sûr, l'avait montré, l'ordre des affixes est l'image miroir de l'ordre hiérarchique de la structure. Voilà donc cette analyse. Pollock avait proposé la scission, mais avec temps plus haut d'accord. Belletti a proposé de changer l'ordre des deux éléments. Quelques années après, Chomsky a dit que peut-être en quelque mesure, et Pollock et Belletti avaient raison, en ce qu'il fallait postuler plus qu'une position d'accord dans la structure de la phrase. Il y avait une position haute d'accord, plus haute que le temps, une position basse, plus basse que le temps. C'est une configuration qui est en effet montrée par plusieurs langues africaines, langues bantoues, par exemple le swahili, manifeste assez directement ce type de structure. Vous voyez que dans une phrase comme « Yuma a vu les enfants », nous avons dans la structure verbale complexe un affixe, dans ce cas un préfixe, qui correspond à l'accord avec le sujet, ensuite un affixe temporel qui indique le passé, ensuite un autre affixe qui s'accorde avec l'objet. Ici, c'est des accords en classe grammaticale, les langues bantues utilisant ce système d'accords en classe qui est vaguement analogue à l'accord en genre que nous avons dans les langues indo-européennes. Mais en tout cas, donc, on voit directement ce type de structure qui correspond à la structure postulée abstraitement par Chomsky, avec un accord sujet, un accord objet, à différents auteurs. Ceci est une procédure qu'on fera plusieurs fois dans cette présentation. Une bonne règle de l'analyse cartographique est la suivante. Si on postule une structure pour des raisons abstraites, il faut chercher dans les langues, dans d'autres langues, pour voir si peut-être d'autres langues manifestent de manière directe et transparente une structure postulée abstraitement. Voilà, Donc le processus de scission doit continuer parce qu'il suffit d'ajouter un autre adverbe et on se rend compte qu'encore le nombre de positions devient insuffisant. Donc il faut postuler encore plus de structures, ne pas toujours complètement comprendre ses idées. Le verbe comprendre peut être adjacent à l'objet direct ou bien intervenir entre l'adverbe bas et un adverbe un peu plus haut. Être dans une position encore un peu plus haute, ne pas comprendre toujours complètement ses idées, etc. Puis il peut encore monter, etc. Et si on rajoute d'autres adverbes, on se rend compte qu'on a besoin d'autres positions. Donc, quel type d'analyse ? Ben, continuer la scission. Évidemment, il n'y a pas que le temps, il y a aussi l'aspect, il y a aussi la voix, par exemple. Donc, postuler, il faut postuler d'autres atomes, d'autres entités élémentaires qui forment la structure de la phrase. D'autre part, l'accord aussi peut être scindé, comme notre conférencier d'aujourd'hui, Urshlonsky, l'avait observé. Le nœud accord manifeste en effet toute une série de propriétés plus fines, parce qu'il manifeste les propriétés de personne, les propriétés de nombre, les propriétés de genre. Et donc peut-être ces traits peuvent constituer un système de tête indépendante et organisé de manière hiérarchique. Donc on continue la scission, mais ceci a posé la question, où est-ce qu'on s'arrêtera ? Quand est-ce qu'on arrivera à identifier les atomes, les fameux atomes du langage ? Alors c'est à ce point qu'on a commencé à introduire les études cartographiques en essayant d'inverser le problème. Et plutôt que proposer une nouvelle forme de scission chaque fois qu'il y avait un problème empirique à régler, on a essayé de se poser la question en partant de l'extrémité opposée du problème. Donc, se poser la question, quelle est l'expansion maximale, l'ensemble maximal de propriétés qu'une certaine zone de l'arbre peut ou doit exprimer ? Et est-ce que chacune des propriétés exprimées correspond en effet à un trait syntaxique qui définit une tête. Donc de cette manière, on s'est dit, peut-être on arrivera à avoir une idée d'ensemble de la quantité de structures élémentaires qu'il faut postuler pour le calcul combinatoire des langues naturelles. Et c'est comme ça qu'on a commencé à regarder aux structures comme un objet qui mérite d'être décrit en tant que tel, pour ainsi dire. Et on a commencé avec les projets cartographiques. Il y a ici un principe méthodologique important qui dit la chose suivante. Un trait syntaxique interprétable, c'est-à-dire un trait syntaxique qui est aussi visible à l'interprétation, donc qui a un rôle et en syntaxe et en sémantique, correspond à un élément du lexique fonctionnel et cet élément correspond à une tête. Donc il y a une correspondance entre ces trois types de choses. Ce principe a été appelé le principe de décompositionnalité par Richard Kane, qui avait fait un séminaire il y a 2 ans, ici dans le cadre de ce cours. Mais en effet, le principe était déjà opératif bien avant les années 2000 quand il a reçu un nom. En effet, un antécédent important de ces idées utilisées à fond dans les projets cartographiques, on les retrouve dans les tentatives de décomposition lexicale tentées par la sémantique générative, donc par des linguistes comme Lakoff, Macaulay, Postol, Hedgeross, Fillmore, etc. Et dans ce type d'approche, par exemple, les sémanticiens génératifs se posaient la question, quelle est la véritable structure profonde d'une phrase comme « John killed Bill » ? Et ils arrivaient à dire, bah, peut-être « kill » doit être décomposé en des composantes plus élémentaires, donc c'est un verbe qui cause un certain événement élémentaire, la mort de Bill, et avec un agent qui cause cet autre événement. Donc peut-être la représentation est quelque chose comme John caused Bill to die ou John a fait mourir Bill, quelque chose comme ça. Et puis on peut continuer dans la décomposition, les sémanticiens génératifs le proposaient. Par exemple, die peut être décomposé comme un changement d'état become not alive ou quelque chose comme ça. Donc on peut continuer à réduire et trouver les éléments de base de la constitution, du sens des entités verbales et non seulement des entités verbales. Il y a eu un débat épique en faveur ou contre ce genre d'analyse. Par exemple, un grand polémiste comme Jerry Fodor a participé. Chomsky aussi a pris des positions, Jack Endof et d'autres ont pris des positions. Ensuite, le débat a été abandonné, non pas parce que l'un des deux secteurs a nettement gagné, mais plutôt, vous savez, parfois, même dans les débats les plus acharnés, il y a un moment de fatigue où on décide de passer à autre chose. Et c'est fondamentalement ce qui s'est passé dans le cas de la décomposition lexicale. Néanmoins, certaines intuitions essentielles de la sémantique générative sont restées dans les approches successives. Par exemple, dans l'analyse de l'interface lexique-syntaxe, dans beaucoup de travaux plus récents, comme les travaux de Ramchand, par exemple, ou des autres personnes que j'ai citées ici. Les idées de décomposition lexicale sont aussi en relation avec certaines choses que nous avons dit sur sur le caractère binaire de merge. Vous vous souvenez qu'on a dit qu'il y a des raisons empiriques pour dire qu'il n'y a pas de structure ternaire dans le langage. Donc, quand vous avez un verbe à double objet en anglais, par exemple, même si on a affaire à deux choses qui semblent un peu du même type, deux objets, on n'aura pas une structure de ce type, mais plutôt toujours une structure hiérarchique de ce type. Richard Kane avait donné des arguments très clairs en faveur de l'idée d'une organisation hiérarchique. Et on a dit que si on pense à merge comme une opération fondamentalement binaire, on ne peut qu'engendrer des structures de cette sorte, avec une asymétrie intrinsèque entre deux objets d'une structure à double objet. Évidemment, les considérations qu'on vient de faire sur la décomposition lexicale vont dans le même sens. Parce que si nous pensons à un verbe comme give en anglais ou show, donner, montrer par exemple, comme étant des verbes complexes avec un élément causatif, et donc le fait qu'un événement plus simple est causé, donc donner un livre à Jean correspond à quelque chose comme faire avoir un livre à Jean, quelque chose comme ça, et montrer un livre à Jean correspond à faire voir un livre à Jean, essentiellement. Et donc, il y a toujours cette composante causative qui est en jeu. Eh bien, la décomposition lexicale nous amène directement à la structure qui est celle déterminée par merge binaire, avec l'asymétrie entre les deux objets que nous avons illustrés, qui a été découverte par Kane, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc, en revenant sur le principe de décompositionnalité, qu'est-ce que c'est qu'un trait syntaxique interprétable ? Ben, c'est un trait syntaxique visible à la syntaxe et à la sémantique. Donc, il définit une propriété syntaxique comme la catégorie et une propriété sémantique, le contenu exprimé par la tête fonctionnelle. Donc, par exemple, T, aspect, etc., définissent la catégorie T, aspect, donc ses capacités combinatoires, et aussi la propriété sémantique, l'interprétation temporelle, l'interprétation aspectuelle, et ainsi de suite. Alors, si vous réfléchissez un instant à l'impact d'un principe comme le principe de décompositionnalité, il est clair qu'il revient à dire que les représentations syntaxiques ont une très grande simplicité locale. Donc, les configurations locales sont très simples. Il n'y a qu'une propriété fondamentale syntaxique et sémantique, et l'élément porteur de cette propriété se combine avec deux autres éléments, un spécificateur et un complément. Mais donc tout est très simple localement. Il y a bien sûr des conglomérats complexes, par exemple un verbe peut être fléchi pour le temps, pour l'accord, pour le mode, etc., etc. Mais selon cette manière de voir les choses, ces structures complexes ne sont pas déjà toutes faites dans le lexique, c'est seulement la syntaxe que, par le mouvement, peut créer ces entités complexes. Donc si au niveau local, sur la base du principe de décompositionnalité. On aura des configurations optimalement simples. Au niveau global, évidemment, il y aura un prix à payer. Il faudra nécessairement avoir des configurations complexes parce qu'il y a beaucoup de propriétés exprimées. Donc, il faut les distribuer dans la structure. Et donc, on aura nécessairement des structures complexes. Et ce sont bien les structures complexes qu'on essaye de cartographier. Voilà, donc sur la base de tous ces principes, Guglielmo Cinque, qui a parlé aussi à notre séminaire il y a 2 ans, est arrivé à une scission en plusieurs composantes du système de la flexion, donc en continuant les idées de Pollock, Belletti, etc. Cinque a identifié une séquence hiérarchisée de spécifications de modes, de modalités, possibilités, nécessités, etc., de temps présent, passé, futur, d'aspects, aspects progressifs, par exemple, aspects ponctuels, aspects perfectifs, etc., jusqu'à la voix, voix active, voix passive, etc. Donc, il a identifié ce système extrêmement détaillé de têtes fonctionnelles hiérarchisées, tout simplement en poussant aux extrêmes, conséquences extrêmes, la méthodologie pollockienne. Et dans mon propre travail, mais je vais revenir là-dessus, je fais des propositions sur la scission du nœud complémentaire en une série de têtes, donc c'est un espace délimité par une tête de force et une tête de finitude, qui crée un espace qui est occupé par des entités comme des topiques, des focus, des faucilles, si on veut, et différents types d'opérateurs, des opérateurs de questions, par exemple, de structures relatives, de structures exclamatives, et ainsi de suite. Mais je vais revenir sur la forme du système du complémentaire. Donc on a commencé en cartographiant une série de structures des langues romanes et germaniques, et puis très très rapidement, ce type de méthode, ce type d'approche a été étendu à beaucoup d'autres langues, d'abord les langues indo-européennes comme les langues celtiques, slaves, etc., les langues indo-européennes orientales comme le persan, etc., mais aussi au-delà de la famille indo-européenne, avec beaucoup de travail sur le langue finno-ougrienne, en particulier sur le hongrois, sur la langue turcique, sur la langue sémitique, ici la contribution de Wurschlands qui a été très importante, et puis sur la langue d'Afrique, beaucoup de travail sur la langue d'Afrique, en particulier le travail fondateur de Enoch Abo sur le Gbe a été la première analyse cartographique systématique d'une langue africaine, d'une langue Kwa dans ce cas, et qui a constitué un véritable modèle pour beaucoup, beaucoup d'analyses cartographiques de langues bantoues et non-bantoues qui ont été proposées par la suite. Beaucoup d'intérêt aussi sur les langues d'Extrême-Orient, beaucoup de travail sur le chinois, sur le japonais, sur lequel je vais revenir, sur le coréen, sur beaucoup d'autres langues, sur les langues natives d'Amérique et d'Australie, sur les langues austronésiennes, bien sûr, langues océaniques, et aussi sur les langues créoles, sur les langues des signes qui ont leur propre cartographie, bien entendu, et puis beaucoup de travail aussi en dialectologie romane, en dialectologie romane et germanique. La méthode cartographique est très utilisée parce que les cartes nous permettent de bien étudier certains aspects de la microparamétrisation qui caractérise les études dialectologiques en général, et bien sûr l'utilisation aussi en linguistique historique, sur la langue classique. Beaucoup de phénomènes d'ordre apparemment très libres dans les langues classiques, par exemple en latin, ont été ramenés de manière intéressante à des représentations cartographiques détaillées qui montrent entre autres que ce n'est pas le cas, que tout est possible, il y a des limites à ce que l'on peut faire, même dans des systèmes qui sont apparemment très très libres. Voilà, donc si on veut caractériser une phrase ce qu'on essaye de faire en cartographie, je dirais qu'il s'agit d'un vaste projet descriptif. Donc, nous essayons d'offrir des descriptions précises, aussi exhaustives que possible, aussi structurées que possible, des structures fines, des syntagmes et des phrases. Alors, la description est extrêmement importante. Pensez, par exemple, à toutes sortes d'applications, des applications didactiques, des applications cliniques au déficit du langage, des applications informatiques. Si nous n'avons pas une description exhaustive et fiable des langues, évidemment, toute application est extrêmement difficile. Et bien sûr, il y a un intérêt intrinsèque dans la description pour la documentation et la préservation des langues menacées d'extinction. Mais seulement une petite partie des langues du monde a été décrite d'une façon systématique. Dans un article qui avait créé beaucoup de débats il y a une quinzaine d'années, Evans et Levinson avaient estimé qu'environ 10% des langues du monde ont été décrites. 10%, ce n'est pas grand-chose, mais en effet, si on élève les standards au niveau de détail exigé par les analyses que nous avons présentées ici, cette estimation est déjà extrêmement optimiste. C'est beaucoup moins, en effet, que 10% des langues du monde qui ont été décrites de façon satisfaisante. Donc, la description linguistique est un territoire complètement ouvert pour la recherche linguistique où il faut absolument auquel il faut absolument s'appliquer, étant donné l'importance d'une description de qualité des langues. Nous avons, en tant que spécialistes de grammaire générative, 70 ans d'expérience dans le développement d'outils extrêmement sophistiqués pour l'analyse linguistique. Donc il faut les utiliser. Il faut les utiliser pour la description. Autrement, le risque que les descriptions seront faites par des moyens moins sophistiqués que les types de moyens d'analyse grammaticale que nous avons développés. Or, description va toujours en même temps, procède en parallèle avec l'explication. Ici, j'ai mis en exergue une phrase de Benoît Mandelbrot dans le texte que j'ai cité avant. Donc Mandelbrot dit « Mon but initial est de décrire la forme de divers objets », s'il parle de structure fractale, bien sûr. Cependant, dès que cette première phase réussit, la priorité passe aussitôt de la description à l'explication, de la géométrie à la dynamique, à la physique et au-delà. Donc il faut immédiatement, dès qu'on a une description satisfaisante, il faut immédiatement se poser la question de l'explication. Pourquoi est-ce que les choses sont ainsi? Pourquoi est-ce que je trouve ces formes et non pas d'autres formes imaginables? Et très souvent, l'explication exige d'aller au-delà du domaine pur de la géométrie structurale et essayer de penser aux principes qui sont à la base de la dynamique du domaine qu'on est en train d'étudier. Parfois, on a reproché à la recherche cartographique de ne pas pousser suffisamment l'effort explicatif, mais en effet, ce n'est pas une critique justifiée, à mon avis. Nous sommes tous d'accord qu'une bonne carte est le point de départ du processus explicatif, n'est pas le point d'arrivée. Donc, dès que nous arrivons à faire une carte satisfaisante, le processus explicatif commence. Il faut comprendre pourquoi nous trouvons ce type d'organisation et non pas d'autres types d'organisation. Donc, description et explication vont toujours ensemble. Nous devons poser les questions pourquoi les choses sont ainsi. Nous devons essayer toujours de ramener déductivement à des principes plausibles à la faculté du langage ce que nous observons, les configurations que nous observons dans nos cartes. Et si nous formulons les choses de cette manière, donc si nous posons systématiquement des questions d'explication, la recherche cartographique fonctionne un générateur de questions empiriques pour les études théoriques. Donc, c'est un type de recherche qui devrait constamment créer de nouveaux puzzles, de nouvelles questions pour la recherche théorique, en nourrissant ainsi la continuation de la recherche théorique. Voilà, donc revenons un peu à nos histoires plus analytiques d'analyse du système du complémentaire et faisons en quelques mots l'histoire de la question. Donc John Bresnan, linguiste américain, avait proposé pour les structures de la phrase ce type de configuration, en proposant que la structure de la phrase étant à l'époque conçue comme la structure prédicative, donc S correspond à sentence, et il y a un sujet et un VP prédicat fondamentalement, cette structure s'accompagne toujours d'un nœud initial qu'elle appelait complémentaire. Complémentaire parce qu'elle transforme une phrase subordonnée en complément possible d'un verbe principal, par exemple, et que cette position peut être remplie par un élément comme que, par exemple, en français, ou that, en anglais, et ou bien peut fonctionner, selon l'analyse de Bresnan, comme cible du mouvement, par exemple, pour la formation d'interrogatives, on déplacera un élément interrogatif à cette position initiale. L'idée d'une seule position de complémentaire pour toutes ces choses avait un certain pouvoir explicatif. Par exemple, elle rendait compte immédiatement du fait qu'il y a des incompatibilités. Par exemple, si vous pensez à comment on forme une relative en anglais, « the man who you saw », on peut avoir « that »,« the man that you saw », mais on ne peut pas avoir deux éléments. Donc « the man who that you saw », par exemple, n'est pas une structure possible en anglais contemporain. Et il y a un effet de « doubly filled comp », donc il y a une position de complémentaire qui peut être remplie par un seul élément, comme tous les nœuds, d'ailleurs, des structures phrasales. Mais évidemment, cette structure était beaucoup trop simpliste et un premier enrichissement est venu de Chomsky dans ce texte Barriers que j'ai cité avant, qui traite en effet de la théorie de la localité, mais dont la contribution sur les structures, hein, qui se trouve dans la toute première page de cette contribution, de ce livre, consiste à dire que la théorie X-bar, donc ce schéma fondamental qu'on associe aux différents syntagmes, donc ça peut être un syntagme nominal, syntagme verbal, syntagme prépositionnel, etc., avec cette configuration, peut être étendu aux catégories fonctionnelles. Donc aussi, le complémentaire projette son propre schéma X-bar, la flexion projette son propre schéma X-bar, et donc il y a une intuition puissante d'uniformité de toutes les structures, si on veut. On a toujours ce genre de configuration. Mais si on adopte cette idée chomskienne, il y aura deux positions, non pas une seule, dans le système du complémentaire. Une position de spécificateur et une position de tête. Et il y a des bonnes raisons immédiates pour accepter ce premier type de scission, n'est-ce pas ? Si on pense au phénomène comme la formation d'interrogatives en anglais, « What could he say ?», nous voyons que nous avons besoin de deux positions au début de la structure, l'une pour l'élément WH et l'autre pour l'inversion du verbe fléchi. Et donc c'est exactement les deux positions qui sont là dans les structures selon l'hypothèse de Chomsky. Donc le simple nœud complémentaire remplacer par ce type de configuration les phénomènes de verb second généralisés qu'on trouve dans toutes les langues germaniques, sauf l'anglais moderne qui a perdu ce processus dans son histoire, et les langues romanes médiévales qui ont toutes perdu ce processus, sauf le romanche qui a gardé cette caractéristique. Et bien dans toutes ces langues, langue germanique moderne et langue romane médiévale, il y a ce phénomène de verbe en deuxième position qui, dans les phrases principales, implique la structure du complémentaire et un élément, par exemple le sujet, mais pas nécessairement le sujet, termine en première position, tandis que le verbe fléchi se trouve en deuxième position, ce qui détermine cet ordre constituant verbe fléchi, reste de la phrase, et c'est à cela qu'on se réfère quand on parle de V2. Donc tous ces phénomènes ont besoin d'un complémentaire riche. Bon, je vais sauter cela. Évidemment, ça pose immédiatement une question. On ne peut plus traiter le phénomène du complémentaire doublement rempli, parce que précisément on a deux positions. Donc quelque chose comme Pierre ne sait pas qui que Jean a vu, ce genre de choses, n'est plus automatiquement exclu par une hypothèse comme celle de Chomsky. Mais ça c'est tout à fait désirable, parce que si on regarde les langues du monde, on voit qu'il y a beaucoup de cas où effectivement un élément antéposé en position initiale, par exemple dans une question indirecte, peut être en concurrence avec un élément comme « que », par exemple dans certaines variétés dialectales de l'anglais, l'anglais de Belfast, on a des questions indirectes comme « I wonder which book that he read ». Tout à fait possible. Dans beaucoup de dialectes du néerlandais, on a ces séquences « who that, we that ». Même en français, une certaine variété du français, français québécois, il y a des questions principales comme qui que t'as vu, qui t'as vu, où il y a ce complémentaire que en concurrence avec qui. Beaucoup de dialectes de l'italien, que mange-t-il, c'est quelque chose comme ça en vénitien, élément WH, que et reste de la structure. En général, dans les langues standards, on ne trouve pas ce genre de phénomène, mais c'est un phénomène naturel, c'est un phénomène qui ressurgit dans beaucoup de variétés dialectales. En italien standard, il n'y a qu'une construction qui admet ce phénomène, et ce sont les exclamatives. « Che bel libro, che hai letto ?» Vous avez cette occurrence de « que » qui peut se manifester dans la structure exclamative et qui peut être en concurrence avec l'élément exclamatif en position de spécificateur. Donc clairement, nous avons besoin d'un paramètre pour distinguer par exemple entre l'anglais de Belfast et l'anglais de Londres. Il faut un paramètre qui dise que dans les configurations spécificateurs complémentaires, le complémentaire peut être réalisé ou ne peut pas être réalisé quand le spécificateur est rempli. Donc nous avons besoin, comme partout dans les cas de variation, d'un principe et d'un paramètre. Bon, je vais omettre ça. Ok, donc ces types d'analyses ont proposé une scission dans le système, une première scission dans le système du complémentaire. Puis il y a d'autres raisons qui s'ajoutent immédiatement. Par exemple, dans les analyses classiques, il y a plusieurs éléments comme « que » dans la langue romane et « de » dans les structures infinitivales de langue romane qui sont analysés classiquement comme des complémentaires. Donc, vous avez en italien, mais aussi en français, « je crois que je partirai »,« j'ai décidé de partir »,« que » et « de » classiquement étaient analysés comme des complémentaires, de étant simplement la contrepartie infinitivale de que. Il y a des bonnes raisons de penser que de est en effet un élément du système du complémentaire, parce que, par exemple, il est systématiquement plus haut que la négation qui est interne à la phrase. Donc, Jean décida de ne pas. Même l'élément le plus haut de la négation suit. De. Tandis que, par exemple, « to » en anglais, qui est aussi une préposition utilisée dans les structures infinitivales, est manifestement plus bas, donc il se trouve dans la partie basse de la structure, où il est précédé, il peut être précédé, en tout cas par la négation. Donc, « John decided not to leave, par exemple. Donc, ces éléments occupent des positions manifestement distinctes et de, ou dit en italien, peut être interprété comme un élément faisant partie du système du complémentaire. Néanmoins, dans le système du complémentaire, il utilise une position distincte par rapport à la position de « che » en italien ou de « que » en français. Et ici, il faut donner un argument indirect pour montrer ça, ce qu'on appelle un argument de transitivité, ayant cette structure. Si un élément A précède un élément B et B précède C, alors A précédera C, précédera et sera plus haut dans la configuration de C par rapport à C, même si A et C n'apparaissent jamais ensemble. Hein, donc on essaye de donner ce type d'argument de transitivité. Et l'élément B en question, le terme de comparaison qui nous permet de faire ce type de raisonnement, peut être, dans le cas de figure, un topic, donc un élément dans des constructions romanes comme le livre, Jean le lira demain, ou il libro, Gianni lo leggerà domani. Donc cet élément, qui est ce qu'on appelle un topic, donc un élément sur lequel on va faire un commentaire, et le reste de la phrase est un commentaire, fonctionne ici pour nous montrer les positions exactes de certains autres éléments. Voyons comment. Voilà, donc on peut montrer en italien qu'un élément comme « che » correspond au français « que » précède nécessairement le topic. Donc l'ordre naturel est « credo che », ensuite le topic, « il tuo libro », ton livre, « lo leggerò domani », »,« je le lirai demain ». Ça c'est l'ordre naturel, mais si nous prenons une structure infinitive, le topic est possible en italien. En français, c'est une structure très douteuse, mais en italien, c'est possible. On a des structures comme « ho deciso il tuo libro di leggerlo domani ». Vous voyez qu'ici, l'élément « di » suit nécessairement le topic. Donc, il y a un élément qui précède, un élément qui suit le topic, ce qui nous amène à une structure complexe pour le complémentaire, une position plus haute que le topic, une position plus basse que le topic, réalisée respectivement comme « che » et comme dit. En généralisant un peu à partir de cette structure, on appelait la position complémentaire haute, position de force, donc qui exprime la force illocutoire des phrases principales, donc il s'agit d'une déclarative, par exemple, et la position basse, comme position de finitude, position qui s'accorde en finitude avec la structure de la phrase qui se trouvera dans une position encore plus basse. Voilà, donc je disais avant qu'une bonne règle cartographique, c'est de regarder dans d'autres langues proches et puis moins proches pour voir si une séquence qu'on propose abstraitement est manifestée dans certaines structures. En effet, la séquence que de postulé abstraitement pour l'italien, est possible dans certaines structures du français. Plutôt que de faire cela, tu devrais lui parler, par exemple. Vous voyez cette séquence postulée abstraitement pour l'italien. L'italien n'a pas de cas comparable, mais sur la base d'un argument abstrait, on est arrivé à postuler ce genre d'ordre. Puis regardons d'autres complémentaires. Par exemple, le complémentaire « c » correspondant à « si » du français. Alors on peut montrer, toujours en utilisant le même type d'argument, que la position occupée par « si » n'est pas aussi haute que la position occupée par « che » en italien, parce que « si c'est » peut être précédé par un topic. Donc vous avez l'ordre « non so topic »,« il tuo libro se lo leggerò domani », et vous avez le topic qui peut précéder ou suivre « se » et qui, dans certains cas, l'élément « c » peut en effet être et précédé et suivi par un élément topical. « Non so a Gianni, c'est il tuo libro, glielo darò domani ». Donc ce qui nous amène à enrichir notre petite carte et dire que si « che » est la position la plus haute et « di » la plus basse, « c », cette position interrogative, est intermédiaire où elle peut être précédée ou suivie par une position topicale. Là aussi, bonne règle cartographique, on regarde d'autres langues, on voit que, par exemple, en espagnol, la séquence « que si », postulée abstraitement par l'italien, peut se réaliser dans certaines questions, dans les questions ainsi dites « rapportées ». C'est-à-dire, quelqu'un pose une question, est-ce que tes amis t'ont déjà visité, t'ont rendu visite en Granada? Je peux rapporter cette question en disant, me preguntaron, donc ils m'ont demandé, que si, etc. Et le reste de la structure. Vous voyez l'ordre postulé abstraitement par l'italien, aussi avec la possibilité d'un topic, comme dans cette deuxième phrase, qui intervient entre que et si. En étant la comparaison, on regarde d'autres langues et on voit là apparemment un problème. C'est-à-dire, si on regarde d'autres langues comme certaines variétés du néerlandais, certains dialectes flamands, on trouve non seulement l'ordre que si, mais aussi l'ordre si que. Par exemple, dans ces questions indirectes, Jean a demandé si que Marie était déjà partie ou quelque chose comme ça. Alors, est-ce que ces ordres peuvent varier arbitrairement? Dans la prochaine langue, on peut se trouver, on peut s'attendre de trouver à une autre possibilité jusqu'à réaliser toutes les possibilités logiques. Si c'était le cas, donc s'il y avait une variation tout simplement arbitraire, évidemment, on ne pourrait pas avoir des ambitions explicatives trop grandes par rapport aux cartes qu'on essaye de dessiner, parce qu'il y aurait beaucoup d'éléments complètement arbitraires dans ces représentations. C'est le type d'objection qui a été fait, par exemple, par le linguiste belge Van Cranbrock. Mais en effet, il y a une réponse à cette objection, qui est la suivante. Il faut distinguer entre les positions abstraites des cartes syntaxiques et les lexicalisations possibles. Certaines formes du lexique fonctionnel sont polyvalentes, c'est-à-dire elles peuvent occuper plusieurs positions abstraites. Elles peuvent lexicaliser beaucoup des positions abstraites. Un exemple très banal, on peut le voir par exemple en anglais, en regardant les différentes utilisations de « to ». I want to go, marqueur de l'infinitif, I talk to John, préposition, c'est, disons, la même forme, mais qui occupe manifestement de positions abstraites distinctes. Même chose pour for, même chose pour des morphèmes comme ce, qui peuvent manifester des choses très très différentes. Par exemple, ce, dans le système nominal, marque la pluralité, dans le système verbal, marque le temps et l'accord à la troisième personne du singulier. Le, en français, peut être un déterminant, le livre, hein, ou bien un pronom clitique, je le lis, distribution complètement distincte. Donc, la même forme peut occuper des positions structurellement distinctes. Et donc, sur la base de ces considérations, les éléments qui correspondent à que ou à that en anglais peuvent lexicaliser une position haute, comme dans le cas de l'espagnol, et donc on aura l'ordre que si, ou bien une position plus basse, la position de finitude, comme dans le cas du flamand, et on aura l'ordre of that, ou if that, ou si que, si vous voulez. Donc position abstraite qui reste constante, et lexicalisation possible qui peut varier considérablement, comme dans les cas que nous venons de voir. La polyvalence peut se manifester dans la même langue. Par exemple, un élément comme « che » dans certains dialectes de l'italien, par exemple, ici, je parle du dialecte de Venise, « che » peut lexicaliser la force déclarative, donc dans une déclarative subordonnée. Je regrette que à Marco on lui a dit ceci ou cela. Donc, que déclaratif précède un topic, mais que peut aussi lexicaliser une position beaucoup plus basse après l'élément interrogatif dans les questions indirectes et à plus forte raison après un topic. Donc on a des structures comme une question indirecte comme celle-ci. Je me demande le prix Nobel à qui on va lui donner l'année prochaine, par exemple, où vous voyez que la même forme qui peut lexicaliser ou bien une position très haute, la position de force déclarative, ou bien une position très basse après l'élément WH dans les questions indirectes, la position de finitude. Donc dans la même langue, on trouve ce genre de choses, et même dans la même phrase, parfois, on peut avoir des utilisations multiples du même élément de type que, etc., qui lexicalisent des positions distinctes. Par exemple, comme Jim McCloskey l'avait observé en anglais, on peut accepter des structures comme « I think that if they arrive on time, that they will be greeted », où il y a cette répétition qui suggère que « that » lexicalise une position haute et une position beaucoup plus basse dans la structure de la périphérie gauche. On retrouve ça dans plusieurs langues avec des topiques. Par exemple, en espagnol, Juan dice que con su hermana que no se puede contar, etc. Vous voyez une position topicale qui est précédée et suivie par que. On trouve ça dans des variétés dialectales français, donc dans le dialecte picard, il y a ce type de structure avec double occurrence de que. Il arriva qu'une demoiselle qu'elle tomba, fondamentalement, où vous avez cette double occurrence. Donc à travers les dialectes, on trouve très fréquemment des configurations de cette sorte. Voilà, je voudrais faire référence maintenant à quelque chose qui avait été discuté par Adam Ledgway dans son séminaire ici il y a quelques semaines. Donc Ledgway avait parlé de cette propriété fort intéressante en gascon, le que, ou que plutôt, énonciatif du gascon, parce qu'il peut être amené exactement au même type d'analyse que nous venons voir. Donc normalement, dans les déclaratives principales, les langues ne marquent pas la force déclarative. Hein. Une déclarative principale, tout simplement, commence par le sujet. Donc en français, tu chantes, on n'a pas que tu chantes, par exemple, ou en anglais, on n'a pas ce genre de structure. Mais en gascon, vous avez que toutes les déclaratives commence par cet élément qui marque explicitement la force déclarative. Donc, que cantas, vous voyez que c'est une langue à sujet nul, donc le pronom sujet ne sera pas prononcé. Et il y a ce que plutôt énonciatif. Dans les structures subordonnées, on pourra avoir un double marquage. Il y aura un que haut, pour ainsi dire, et un que plus bas. Et les deux pourront être, dans la séquence, pourra être interrompue par l'intervention d'un certain type d'éléments, par exemple un sujet topicalisé. Donc on a ce type de phrase qui avait été discutée par Ledgway, que semble, donc il semble, vous avez toujours le que énonciatif, puis sujet explicite, sujet explétif, pardon, nul dans la langue. Puis vous avez la subordonnée, donc il semble que tous, que pourrions sans peine parler, quelque chose comme ça, où nous avons un que déclaratif et puis le que énonciatif qui se manifeste dans la structure subordonnée. Ledgway a montré aussi que les sujets dans les structures avec ce « que » doivent nécessairement le précéder. Hein, donc on ne peut pas avoir l'ordre « que » énonciatif, « sujet », par exemple, dans une structure principale. Le chien regarde la maison, donc on aura l'ordre « le chien que regarde la maison » fondamentalement. Donc on pourrait dire, peut-être ce qui se passe est que ce « que » n'est pas vraiment dans la périphérie gauche, mais il est réanalysé comme un élément de la flexion verbale, quelque chose de plus bas, qui suit le sujet. Mais en effet, il y a une alternative qui est celle qui a été adoptée par Ledgway dans son analyse, c'est-à-dire il se peut que ce que soit quand même dans le système du complémentaire, mais que le sujet se trouve encore plus haut, c'est-à-dire que la structure puisse avoir un sujet qui se trouve dans la périphérie gauche de la phrase, dans le système du complémentaire. Et l'hypothèse d'une telle configuration ne doit pas nous sembler trop étonnante, parce que le français standard, en effet, illustre dans une construction bien connue ce phénomène d'un sujet qui se trouve très haut dans la structure. C'est dans la configuration de ce qu'on appelle l'inversion complexe du français, une manière de former une interrogative, donc le chien regarde-t-il la maison, où le sujet lexical se trouve dans une position plus haute par rapport au verbe fléchi qui, lui, a été déplacé à la gauche du pronom sujet, donc le pronom sujet glittique, se manifeste en position anglitique, donc après le verbe fléchi. Donc dans ce type de configuration, effectivement, ce type de configuration montre qu'on a besoin d'une position sujet spéciale qui se trouve dans la périphérie de la phrase. Et peut-être c'est la position qu'on utilise systématiquement dans des systèmes comme les Gascons. Le Gascon, selon l'analyse de Ledgway. Donc il y aurait un parallèle entre l'inversion complexe du français, le chien regarde-t-il la maison, avec mouvement, double mouvement du verbe à la flexion et puis à la tête de finitude, où donc il passe de l'autre côté du pronom sujet, et puis le sujet lexical dans une position encore plus haute et déjà dans la périphérie. Et les structures, hein, sans mouvement du Gascon, le chien que regarde la maison, quelque chose comme ça, qui veut dire le chien regarde la maison, tout simplement, où nous avons un peu de mouvement du verbe de toute façon à la flexion, puis le pronom sujet nul, la langue étant une langue à sujet nul, et puis ce fameux qui est énonciatif, qui manifeste la position de finitude, et le syntagme nominal, le sujet, qui se trouve dans une position plus haute. En effet, le fait qu'il y a une compétition entre le mouvement du verbe et la présence de que d'un que bas, disons, qui manifeste la tête de finitude, est montré très directement par une autre construction française qui est celle qui va avec certains éléments adverbiaux, comme peut-être, qui entre dans ce type de paradigme. Donc peut-être peut se manifester dans la périphérie de la phrase et il prendra un que qui vraisemblablement sera notre que en position basse, donc en position de finitude. Donc on peut avoir peut-être qu'il viendra. On peut avoir aussi le mouvement du verbe, donc peut-être viendra-t-il. Cette configuration déclenche ce mouvement du verbe fléchi à la gauche du sujet. Mais on ne peut pas avoir la concurrence de que et de l'inversion. Donc quelque chose comme « peut-être que viendra-t-il » n'est pas possible, ce qui suggère que le mouvement du verbe sont en compétition pour la même position structurale, donc ou bien on a l'une ou bien on a l'autre de ces deux manifestations de la tête de finitude. Voilà, je voudrais conclure pour aujourd'hui, et puis on reviendra sur la cartographie et sur l'acquisition de la cartographie demain, en étendant un peu la comparaison, en étendant considérablement la comparaison en dehors des langues romanes, non seulement, mais aussi des langues européennes, et en comparant certaines des structures dont nous avons parlé aujourd'hui en italien et dans les langues romanes, avec des structures équivalentes en japonais. Ici, je fais référence à l'analyse du linguiste japonais Mamoru Saito. Alors, ce qui caractérise les structures pertinentes ici en japonais est que on peut avoir des configurations spéciales pour les questions rapportées, exactement comme en espagnol. Comme en espagnol, on peut avoir ces structures avec que, si, qui sont en concurrence. Quand on répète une question qui a été posée par quelqu'un d'autre, on peut utiliser une construction spéciale aussi en japonais. Donc, supposons que quelqu'un a posé une certaine question qui vient à la maison, par exemple, ou est-ce que Jean vient à la maison? Et donc, quelqu'un peut rapporter ce genre de situation en disant « Taro a demandé à Zero ». Et ensuite, nous avons ce type de structure qui est caractérisé par trois particules qui se trouvent toutes à la fin de la phrase « no kato » et qui sont analysées par Saito comme correspondant aux séquences qu'on a vues dans la langue romane. En particulier, « ton » correspond à « que » de l'italien ou à « que » du français ou à « que » de l'espagnol. En effet, c'est le même type de particules qu'on a dans des structures comme « je crois que Marie viendra », sauf que ce « que » ton se trouve à la fin de la structure à cause du paramètre de la fixation du paramètre tête complément dans cette langue sur laquelle je reviens dans deux minutes. « Ka » est une particule interrogative, donc est une particule qui correspond à « si » du français ou à « se » de l'italien. Et « no » est analysé par Saito comme une particule qui lexicalise la tête de finitude, donc la tête la plus basse du système du complémentaire. Donc la tête qui correspond au « de » de « j'ai décidé de venir », par exemple, dans la langue romane, ou « di » dans les structures italiennes correspondantes. Alors, en japonais, dans la même construction, on a l'occurrence de ces trois particules dans cet ordre fixe qui est l'image miroir de l'ordre fixe qu'on trouve dans les langues romanes. Donc, en italien, par exemple, on était arrivé à l'ordre « che se di », donc « che » la plus haute, « se » intermédiaire, « di » la plus basse, et selon l'analyse de Saito, « no kato » correspond exactement à ce type de configuration, avec « no » la particule de finitude, « ka » la particule interrogative et « to » la particule de force déclarative ou de structure rapportée en position finale. Alors, donc, on a à voir ici, dans les deux cas, le même ordre hiérarchique, évidemment, « que » et « to » sont la plus haute, « di » et « non » sont la plus basse, mais l'ordre linéaire est l'image miroir dans un cas comme dans l'autre, et ceci à cause de notre fameux paramètre de l'ordre tête-complément qui est fixé de manière différente en japonais et en anglais ou en italien et en français. L'ordre étant tête-complément dans le cas de l'italien, par exemple, ou du français, et complément-tête dans le cas du japonais, avec la tête qui est systématiquement en position finale, donc l'auxiliaire qui suit le syntagme verbal, le verbe par exemple, le complémentaire qui suit la phrase, le verbe qui suit le complément verbal, comme on voit ici. Donc tout est essentiellement l'image miroir et on a ces arbres qu'on a déjà discutés où on voit bien le branchement fondamentalement à droite de langues comme l'anglais, l'italien, le français, et le branchement fondamentalement à gauche dans des langues comme le japonais. On avait déjà vu tout cela. Donc, la structure hiérarchique dans les deux types de langues est la même si on prend l'analyse de Saito pour le japonais, avec fin, position la plus basse, et puis int, interrogatif intermédiaire, et force, composition la plus haute. Évidemment, l'ordre linéaire de cet élément est l'image miroir d'un cas par rapport à l'autre, en conséquence tout simplement de la fixation du paramètre tête-complément, qui est à tête initiale dans le cas de l'italien de manière tout à fait systématique, et à tête finale dans le cas du japonais. Donc une structure qui est postulée sur une base totalement abstraite pour une langue comme l'italien, donc sur la base de ces arguments assez indirects qui nous ont amenés à postuler ces ordres, est manifestée très directement dans un seul type de structure, en japonais, selon l'analyse de Saito. Donc il montre exactement le même type de configuration, sauf pour la fixation du paramètre d'ordre, qui est évidemment l'image miroir dans une langue par rapport à l'autre. Bien, je pense que je vais m'arrêter ici pour permettre une petite transition par rapport au séminaire. Donc je m'arrête pour le moment et on continuera demain sur ce même type de problème et sur l'acquisition de ce type de structure.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.